Nicolas Chaudin, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle année. Je vous souhaite d'ailleurs une nouvelle année formidable.
Et, merci.
Et puis, je voudrais aussi, enfin, je suis contente de vous accueillir aussi parce que vous sortez un ouvrage qui s'appelle La Cavalcade des Princes, sous-titré Cheval et pouvoir, et dont on va parler pas mal sur cette émission. Alors, la première question que je voulais vous poser, Nicolas, c'est votre relation aux chevaux. Elle est née comment? Elle s'est développée comment? Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
Elle est née très très tôt dans ma vie parce que mon père était un excellent cavalier. Un excellent cavalier qui se lamentait de ne plus pouvoir monter à cheval dans la vie qu'il menait.
D'accord.
Et donc, dès ma plus tendre enfance, en fait, j'ai été confronté aux chevaux.
Okay.
Mon père m'emmenait dans des clubs hippiques, des haras.
Vers quel âge?
M'emmenait voir des concours. Oh, j'avais 3, 4 ans, 5
ah,
ans,
oui.
6 ans.
D'accord.
Et il m'emmenait voir des concours hippiques. Il connaissait lui-même un certain nombre de champions.
Ouais.
Je me souviens de Jean-Marc Nicolas.
Oui.
Il me prenait sur ses genoux quand j'étais gosse. Et puis, à 7-8 ans, mon père m'a mis à cheval.
Et là, ça rigolait plus.
Ça ne rigolait plus du tout. Il trouvait que je montais horriblement mal.
Aïe.
que je me tenais mal, que je ne faisais pas beaucoup d'efforts. Que
vous n'aviez pas
que
envie
cela...
C'est quoi le...
Bon, j'ai toujours été assez flemmard, à vrai dire. Et donc... À l'époque, l'équitation était encore une discipline et pas un loisir.
Ah oui.
C'est-à-dire
ouais,
qu'elle était enseignée comme un, oui, comme une discipline. Et donc, il fallait se plier à une espèce de solfège, si vous voulez,
ouais,
qui a complètement disparu des centres équestres aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, on parlait pas de centres équestres, on disait des clubs hippiques.
Oui, déjà, tout à fait. C'est... Moi, j'ai connu ça aussi, ouais, ouais. Et la relation au cheval qui était très particulière, enfin, qu'on nous enseignait, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, j'ai arrêté de monter parce que à un moment, ça n'était plus possible, pas facile. Et puis, je m'y suis remis à l'adolescence. Et depuis, je n'ai jamais cessé de monter. J'ai des chevaux. Je vis en partie à la campagne, au milieu des chevaux.
Et vous montez tous les jours?
Et quand je suis là-bas, je monte beaucoup. Alors, je ne suis pas un cavalier, un cavalier savant. Je suis une espèce de hobereau. Je monte, j'ai une équitation de hobereau. C'est-à-dire, je selle mon cheval dans la cour de chez moi, je pars par les chemins et j'essaye de revenir le plus tard possible. Voilà.
Oui, la formule est bien. Et en fait... Vous avez, ce que vous préférez faire quand vous êtes à cheval, c'est quoi?
Ce que je préfère, à vrai dire, c'est penser mon cheval au départ. Parce que c'est le moment de la mise en confiance.
Ouais.
C'est aussi le moment d'être fidèle à ce principe qu'à cheval, il faut que tout soit beau. Il faut le cavalier soit... correctement vêtu, propre, le cheval parfaitement pensé, les rênes, la selle, tout ça bien briqué.
Ouais.
Et un cavalier ne peut pas arriver comme après une bataille perdue. Il faut toujours avoir l'air...
Ah, ça me rappelle effectivement tout ce qu'on m'apprenait quand j'étais jeune. C'est exactement ça, quoi. Soyez propre.
Et donc, c'est le moment aussi où l'intimité se resserre entre vous et l'animal.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là qu'il comprend votre disposition du jour. C'est à ce moment-là qu'il... Eh bien, qu'ils se mettent en confiance avec vous, c'est très très important. Je pense que c'est très important.
Ouais.
Et donc, je prends toujours grand soin à soigner ce moment.
Ouais.
Et ainsi, quand je me mets en selle, en gros, mon vieux compagnon sait à peu près ce que nous allons faire. Et,
Et
se doute de l'humeur. Enfin, c'est ce que je lui prête comme faculté. Voilà.
D'accord.
Et sinon, galoper dans une prairie est un moment d'extrême jouissance.
Ouais.
À mon âge, ça devient même très dangereux. Voilà.
ne plaisantons pas. Non, mais effectivement, est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous
oui, bien sûr.
Avant de monter,
sûr,
vous lui parlez?
Oui, je pense que l'intonation de la voix est quelque chose de capital.
Ouais.
Pas tellement ce qu'on lui dit, évidemment, mais l'intonation de la voix.
Oui, mais vous lui dites quelque chose, vous lui dites quoi?
Oh, je lui parle en anglais, je lui parle, je lui dis n'importe quoi. Non, mais je dis n'importe quoi, je dis ce qui me passe par la tête. Il n'y a pas grand-chose à dire à un cheval.
Ah bon?
C'est assez difficile, me semble-t-il, parce que c'est quand même le langage du cheval est insondable. La psychologie du cheval est déjà tellement difficile à percer. Tous ceux qui s'y essayent nous livrent des comptes rendus qui sont pas très très probants. Dans la tête d'un cheval, c'est très difficile d'y entrer. Et moi, je ne suis pas du tout convaincu par le discours qui prétend de ceux qui prétendent y être entrés. Mais bon. C'est un avis personnel, voilà.
D'accord.
C'est tout ce qui fait la noblesse de cet animal, c'est qu'il est, il est mystérieux, insondable.
Oui, mais cela dit, je trouve que dès qu'on rentre dans son box, il dit des choses, quoi.
Ah bien sûr, tout à fait. Mais il les dit dans son langage à lui. Alors si vous lui lisez les nouvelles du matin, ça va pas tellement le passionner. Vous voyez. Donc, quand vous me dites qu'est-ce que vous lui dites, je lui dis des bêtises parce que ce qui importe, c'est plutôt le ton de ma voix, les gestes qui accompagnent le ton de la voix, et voilà, je lui caresse les paupières, par exemple. Moi, je caresse beaucoup les paupières des chevaux.
Pourquoi?
Parce que c'est un endroit qui les démange comme le reste, mais qu'ils ne peuvent pas. Oui, ils ont du mal à se frotter. Vous savez, souvent, un cheval se frotte
la tête
sur un antérieur tendu.
Ouais.
Et en fait, ce qu'il essaye, c'est, enfin voilà, il frotte le tour des yeux comme vous, bah le matin, vous avec vos poings, vous frottez l'orbite des yeux. Et ben, vous pouvez le faire très doucement et ça lui fait extrêmement plaisir. En tous les cas, aux deux miens, ça leur fait extrêmement plaisir. Voilà.
D'accord. Alors, on fait une petite coupure, on se retrouve tout de suite sur cette notion de plaisir de vos chevaux. Nicolas Chaudin, je vous retrouve avec grand plaisir, où justement on parlait du plaisir de vos deux chevaux.
Oui.
Alors dites-moi, comment ça se manifeste?
Le plaisir des chevaux?
Oui.
Il se manifeste de la manière la plus simple quand un cheval est calme, confiant, droit, qu'il va de l'avant. C'est qu'il est bien avec vous.
Oui.
Donc, c'est qu'il éprouve du plaisir à ce que vous lui faites faire.
D'accord. Quand vous dites confiance, ça se manifeste comment, la confiance? C'est, il vous regarde,
quand vous êtes dessus, il vaut mieux pas qu'il vous regarde. Mais, bien sûr. Non, il vous témoigne sa confiance par un sentiment
D'accord.
que vous ressentez dans, par exemple, sa parfaite réponse à vos sollicitations. Voilà. Vous savez, les chevaux sont pas... on se sert d'eux, on monte dessus, on les dresse, on les... Tout ça, on l'obtient par l'assentiment.
Ouais.
On l'obtient par une espèce de conquête de leur confiance, et leur plaisir se manifeste par une complicité dans l'exécution de ce que vous leur demandez de faire.
C'est ça, exactement.
Je dirais ça comme ça.
C'est la bonne formule, parce qu'effectivement, le souvenir que j'en ai, c'est ça, quoi. Et tout d'un coup, on va ensemble au même moment vers le même but, quoi. C'est ça?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Voilà. Donc cette relation que vous avez avec vos chevaux, elle se fait sur le temps aussi. Ça fait longtemps.
Bah mon cheval, là, l'un de mes deux chevaux est presque aussi vieux que moi. non, mais ça fait, il a 18 ans et je l'ai acheté, il y en avait 4.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, c'est un grand polonais. Et alors on se connaît comme, on est deux vieux camarades, oui, ça c'est certain. matin.
Et l'autre ?
L'autre, c'est un Lusitanien.
Ah oui, c'est pas du tout pareil.
Pas du tout pareil, qui est un.
Mais il est arrivé comment dans votre vie alors ?
Il est arrivé parce que c'était un cheval qui. En fait, il est arrivé pour. C'était le groom du mien. Il lui tenait compagnie. Et puis petit à petit, on en a fait.
D'accord.
Voilà, on en a fait bon usage. Voilà.
Ok. Ok, super. Et donc, vous avez envie de parler de tout ça et d'écrire là-dessus, cette relation qui est... Pas du tout.
Non, pas du tout. J'écris d'autres choses, mais non, je n'ai pas envie. Je ne suis pas Jérôme Garcin.
Vous n'êtes pas Jérôme Garcin, mais même pour vous, vous ne faites pas... Oui, oui. Même pour vous, vous ne faites pas, tiens, aujourd'hui... On a fait ça.
J'écris des livres, d'histoires, des essais, des romans même, mais non. Je ne suis pas à livrer mes impressions de cavalier ou de cavalière, parce que souvent, on lit beaucoup de livres de cavalières qui racontent leurs impressions, cette espèce d'exaltation au contact de l'animal ou les rigueurs de ce milieu équestre qui serait très macho, très voilà. Moi, j'ai jamais goûté ce genre de littérature.
Voilà. D'accord. C'est-à-dire que les femmes et le cheval, voilà quoi.
Femmes et le cheval, c'est très important. Pas du tout. Non. C'est pas du tout ce que je dis. D'accord. Je dis, je ne goûte pas la littérature qui raconte cette complicité, cette intimité. Et je disais au passage que c'était beaucoup de livres de cavalières, plus que des livres de cavaliers. Mais d'une manière générale, je ne raconte pas mes nuits d'amour. Et bien, je ne raconte pas non plus la manière dont je monte à cheval et quels sentiments j'ai pour mes animaux. Voilà.
Ah, c'est dommage. Ok. Alors, mais ce besoin d'écrire quand même, c'est pas nouveau chez vous.
Ah bah non, c'est voilà. Ma vie.
C'est votre vie, effectivement. Et je veux dire, c'est votre vie et votre vie, c'est les chevaux aussi, quoi.
Il y a dans ma vie beaucoup de chevaux. Il y a dans ma vie des hectares et des hectares de forêt. Il y a dans ma vie des livres, beaucoup de livres que je n'ai pas écrits et quelques-uns dont je suis l'auteur.
Voilà. De livres que vous n'avez pas écrits, mais que vous allez écrire alors ?
Non, des livres même que pas. J'ai lus, parce que les livres qu'on a aimés sont aussi de très bons amis, comme les chevaux que l'on monte.
D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de lire à cheval ?
Ah non, jamais. Non, je me consacre pleinement à ce que je fais quand je suis sur le dos d'un cheval.
D'accord.
C'est préférable.
C'est préférable
pour le cavalier comme pour la monture.
Ok. On se fait une petite coupure et je reviens très vite vers vous, Nicolas. Merci. Nous retrouvons Nicolas Chaudin, le cavalier surtout, parce que nous parlons chevaux essentiellement dans cette émission. Et que lui, justement, ça tombe bien, il a commencé à monter très jeune et il continue. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ?
Bah, écoutez, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le plus vieil athlète de toutes les Olympiades de l'histoire des Jeux Olympiques était un cavalier, un Japonais, qui est entré en lice pour la compétition aux Jeux Olympiques. Il avait 75 ans.
Wow.
Donc, on peut monter à cheval. Paul Morand montait à cheval à 80 ans. Voilà, on peut... on n'arrête pas de monter. Arrêter de monter, c'est arrêter tout court.
C'est arrêter la vie.
On n'arrête pas parce qu'on meurt. On meurt parce qu'on arrête, précisément. donc, il faut continuer de monter.
D'accord. Bah, vu comme ça, effectivement, ça paraît une évidence absolue. Effectivement. Donc, tout ça, vous le vivez, mais vous le racontez pas trop, quoi. Dans des ouvrages, je veux dire.
Non, je ne le raconte pas parce que c'est une partie de ma vie dont je n'aime pas vraiment parler. Enfin, d'accord. C'est ma vie intime. Voilà.
D'accord. Ok, d'accord. Donc, on revient à la cavalcade des princes. Cheval et pouvoir. Le cheval, c'est le pouvoir. Ça a commencé comme ça.
Mais justement, c'est ce que raconte le livre. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'avant même, enfin, ce que j'expose comme...
Théorie.
Oui, si on peut dire, en tout cas comme hypothèse, comme idée, oui. C'est qu'avant même sa domestication, le cheval était un des attributs du pouvoir, ou en tous les cas, il exerçait sur les clans primitifs une fascination dont témoigne notamment la position des chevaux dans les fresques pariétales du Paléolithique, dont témoigne également... la position au sein de la grotte ou de la cavité. Non seulement le cheval est représenté en majesté, le cheval est représenté, surreprésenté déjà, dans le bestiaire paléolithique, mais en plus de ça, il est en général représenté à un endroit où l'écho est le plus fort, où les jeux sonores sont les plus spectaculaires. Parce que on suppose, et maintenant on en a même la certitude, toutes ces grottes n'étaient que des sanctuaires et non pas des lieux de vie. Et
il y a des très belles images d'ailleurs dans votre livre qu'on trouve sur les illustrations de ces images de chevaux dans les grottes, chauvets notamment.
Et donc voilà, donc cette position éminente dans l'art pariétal laisse supposer déjà une déférence, une fascination pour cet animal. Qui constituait d'ailleurs une grande part du régime carné hein, des premiers humains, mais il y a quand même une fascination. Et par la suite, la domestication ne fera que renforcer parce que monter à cheval, c'est acquérir des aptitudes, des compétences dont le piéton est privé. La vélocité, bien sûr, mais aussi la hauteur de vue. Parce qu'on est plus haut à cheval qu'à terre. Et cette vélocité, cette hauteur de vue donne au cavalier les clés d'une certaine omnipotence, si vous voulez.
Oui, oui. Et c'était le seul moyen de voir loin quand on était à cette époque-là, enfin, je veux dire.
C'est ça, la hauteur de vue, oui, tout à fait. Et surtout, cette vélocité permet... une espèce d'ubiquité, c'est-à-dire que vous pouvez être là et ailleurs presque en même temps par rapport à un piéton dans la savane.
Oui.
Et à mesure que ces sociétés se développent, à mesure que les équipements du cavalier se développent, que son armement se développe, que la guerre devient quasi permanente entre les communautés humaines, eh bien cette éminence du cavalier se confirme. Et devient une des caractéristiques principales des sociétés primitives. Ainsi naissent les ordres cavaliers jusqu'à la chevalerie du Moyen-Âge dans l'Occident chrétien.
Ah oui.
Et en fait, on pourrait comparer le cavalier dans les sociétés primitives, on pourrait le comparer à un expert qui maîtriserait une technologie inaccessible au commun.
D'accord.
On pourrait le comparer à un programmateur, un ingénieur informaticien. C'est-à-dire vous utilisez tout un tas d'outillages auxquels vous n'entendez rien. Quand votre portable tombe en panne, vous ne pouvez pas le réparer. Quand votre ordinateur bug, eh ben vous êtes démuni face à lui. Et seule l'expertise d'un des rares programmateurs, d'un des rares ingénieurs, vous permet de sortir de l'impasse et fait de lui le détenteur d'un savoir, d'une technologie, d'une certaine manière d'un armement, que vous, commun des mortels, vous ne partagez pas, vous ne maîtrisez pas. Eh bien, le chevalier, par exemple, au Moyen-Âge, c'est exactement ça. Il dispose d'un armement inaccessible au commun des mortels, armement qui nécessite un grand entraînement, qui nécessite une dextérité. Il maîtrise un animal lourd, puissant, fantasque, qui nécessite un dressage et un entraînement permanent. Il maîtrise une technique de combat que seuls quelques-uns, à laquelle seuls quelques-uns pouvaient être initiés. On m'a tout ça fait du chevalier une espèce d'aristocrate. Il intègre la noblesse au fil des décennies. Il finit par devenir intégrer l'élite laïque de la société. Eh bien, aujourd'hui, nos ingénieurs sont un peu la nouvelle aristocratie du 21e siècle. Ouais. Voilà.
C'est moins gay, quoi. Non?
Ah bah, vous savez, la guerre n'est pas une plaisanterie.
Oui, oui. C'est vrai. Non, mais l'art d'être en communion avec le cheval, c'est... Voilà.
Ah, oui, oui, tout à fait. C'est autre chose que d'être en communion avec un clavier numérique. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
D'accord, très bien. Bon, on fait une nouvelle petite pause. Et puis on va faire une conclusion. Troisième partie de notre entretien avec Nicolas Chaudin, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la Cavalcade des Princes, son dernier ouvrage paru chez Actes Sud, avec en sous-titre « Cheval et pouvoir ». Alors, est-ce que vous avez le pouvoir grâce au cheval ?
Oui, effectivement, c'est par la maîtrise de l'équitation, par la maîtrise d'un armement particulier et nécessaire au combat à cheval qu'on acquiert le pouvoir. Parce que dans une société primitive, monter à cheval, c'est combattre, hein, oui. Déjà, oui. Pour commencer. D'accord. Donc monter, c'est combattre, mais combattre bien, la plupart du temps, c'est régner. Ah, donc, vous prenez cette équation, monter à cheval, c'est combattre, combattre bien, c'est régner. Bah, forcément, à posséder un cheval, savoir le monter, savoir combattre sur son dos, eh bien, c'est un des meilleurs moyens d'accéder au pouvoir. Alors, pas nécessairement au plein pouvoir, mais d'accéder au pouvoir quand même. Pouvoir féodal, au pouvoir, les cavaliers romains, l'ordre... les chevaliers, les equites romani, les hippéis grecs étaient une aristocratie équestre. Ouais. Et cette aristocratie équestre, eh ben, c'était la maîtrise de l'équitation ou du combat à cheval qui la conférait. Voilà.
D'accord. C'est ce que vous dites très bien d'ailleurs dans la fin de votre présentation du livre en dernière page. C'est aussi éclairer la place incommensurable qu'il occupe dans la civilisation et notamment dans ce qu'elle délivre du plus noble, l'art, le mythe. Trois petits points.
Dans ce qu'elle délivre de plus noble, oui. Parce que évidemment, le pouvoir a donné lieu à maintes représentations, sculptures, peintures, littérature même, des évocations littéraires. Et toutes ces représentations du pouvoir passent par la représentation équestre, ou plus tard par le portrait équestre, qui est un portrait de pouvoir par excellence. Et effectivement, c'est un des développements du livre. En fait, ce que j'essaye de raconter, c'est que l'équitation, et a fortiori l'équitation savante, à partir de l'époque classique, en Europe notamment, cette équitation savante devient en quelque sorte la métaphore du bon gouvernement des peuples. Et que les préceptes enseignés au manège vont fonder toute la philosophie politique de l'âge classique. Le tact, la tempérance, la justice dans les réprimandes que vous infligez à votre monture, le tact dans la manière de solliciter les ordres, l'économie de moyens dans la sollicitation et dans l'instruction. Tout ça va fonder les principes d'une espèce de philosophie politique classique qui prend en compte l'extrême misère d'une grande majorité des populations. Et d'une manière idéale, on va considérer que pour bien gouverner, un prince doit d'abord être un très bon cavalier.
D'accord. Je pense que c'est la formule de la fin. Merci beaucoup, Nicolas Chaudin, d'avoir été avec nous aujourd'hui avec votre nouvel ouvrage « La Cavalcade des Princes », voilà, qui est paru aux éditions Actes Sud. Je vous dis à très bientôt et bonne chevauchée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.